Maintenant, je vais vous présenter les extraits vidéo qui vont être projetés dans la première partie de cette deuxième séance. Ces extraits, comme je l'ai dit ce matin rapidement, ont été sélectionnés par Sabine Kerikoni et moi-même avec l'aide de Jason. La plupart de ces documents, sinon même l'intégralité, non, la plupart de ces documents sont inédits et ils ne sont souvent pas accessibles en dehors des archives ou à tout le moins en dehors des lieux où ces archives ont été également déposées, à New York, donc à la bibliothèque du Lincoln Center. Cette sélection que nous avons opérée n'est pas tout à fait neutre. Elle a été effectuée en fonction de l'identité des participants, ou du moins des participants qui devraient être là. Elle a également été effectuée en fonction du contenu des interventions des participants, mais aussi de considérations temporelles et bien sûr de la qualité des images. Bien que ne préside pas à cette sélection quelque forme, quelque ambition d'exhaustivité que ce soit, il n'en reste pas moins que l'échantillon que nous allons vous présenter au fil de ces 2 jours aimerait aspirer à une certaine représentativité. D'une séance de projection à une autre, et il y en aura donc 2 aujourd'hui et 3 demain, il y aura des échos et des prolongements, des récurrences, des compléments et vraisemblablement aussi des contrepoints. Les extraits retenus couvrent à peu près l'intégralité de la carrière, c'est-à-dire depuis Le regard du sourd, 1970-71, jusqu'à Orfeo, qui a été présenté à la Scala de Milan l'automne dernier en 2009, ou, pour ce qui est des représentations parisiennes, jusqu'à l'Opéra de Katsou, dont les dernières représentations ont eu lieu il y a une quinzaine de jours. Donc il y a sans doute, dans ce que nous allons vous présenter, des passages attendus, sinon des passages obligés, mais nous espérons aussi qu'il y ait des sentiers moins battus et des chemins de traverse, en particulier pour des spectacles qui n'ont pas été présentés à Paris ou pour des spectacles qui ont été présentés il y a longtemps. Nous avons tâché de choisir les extraits parmi l'ensemble des formes, théâtre, théâtre musical, opéra, vidéo, parmi les différentes langues dans lesquelles travaille Wilson, ou bien dans lesquelles il a travaillé, l'anglais, le français, l'allemand, mais aussi le norvégien et le suédois, bien que, contrairement au document que nous a montré Sacha Goldman ce matin, il n'y ait, hélas peut-être, pas de sous-titres. Les seuls sous-titres qu'il y ait étant, sauf erreur ou omission de ma part, des sous-titres en italien pour les images de Hamlet jouées par Wilson lui-même en anglais. La longueur des extraits est très variable, mais nous avons pensé qu'il fallait aussi parfois, même par le biais quelque peu fallacieux qu'est la vidéo, faire l'expérience du temps wilsonien, tout comme est variable la qualité des images, comme il arrive pour les documents d'archives, ou comme est variable encore leur provenance. Des images de spectacle, donc, mais aussi des images de répétition et des images de répétition à un stade plus ou moins avancé. Donc, je vais rapidement présenter maintenant les extraits que nous allons voir tout de suite. Nous n'allons pas commencer par Le regard du sourd. Ça aurait été peut-être tentant, ça aurait peut-être été facile, mais nous allons commencer par ce à quoi Le regard du sourd a entre autres donné lieu. L'une des scènes du regard du sourd montrait la Bird Woman, Charles Sutton, tuée en silence et dans la plus grande impassibilité, devant le rideau de scène fermé, 2 enfants noirs. C'est la scène fondatrice, la scène matricielle, la scène primitive du théâtre de Wilson, et de matrice qu'elle était, cette scène est devenue un centre rayonnant, un leitmotiv entêtant, qui a été repris jusqu'à la fin des années 80. Elle a d'abord donné lieu à une vidéo, donc une œuvre à part entière, réalisée pour la télévision en 1981, et la scène a été jouée seule et a formé un spectacle qui a connu plusieurs titres de 1976 à 1990 et qui a été joué aussi bien par la première interprète du rôle que par d'autres actrices, mais aussi par Robert Wilson lui-même. Tantôt revêtu de la même robe que Charles Sutton, cette robe victorienne noire, tantôt revêtu d'un costume d'homme. Le premier extrait que nous allons voir est l'interprétation de cette ouverture au quatrième acte du Regard du Sourd par Robert Wilson en costume d'homme à Liège en 1980. Ensuite, nous passerons trois extraits d'Einstein on the Beach de 1976, donc le spectacle phare tout à la fois dans la carrière de Wilson et dans l'histoire de l'art vivant. Lucinda, nous ne montrerons pas la première scène de la locomotive avec votre solo de trentaine de minutes. Nous ne montrerons pas non plus la scène où, assise d'abord, puis couchée, vous récitez l'aria, on a envie de dire, du supermarché. En revanche, les trois scènes seront les suivantes. D'abord, la première scène du procès, où Lucinda Childs, vous la verrez assise sur une chaise longiligne à droite du tribunal, où siègent deux juges, l'un jeune, l'autre plus vieux, qui vont déclarer la séance ouverte. Et à gauche du même tribunal, on retrouve Cheryl Sutton, donc l'interprète de la Bird Woman, comme en greffière du procès, qui vient tresser des mots aux syllabes et aux notes psalmodiées par le chœur, ainsi qu'à la musique de l'orchestre. Le texte est un texte de Christopher Knowles, qu'on a vu ce matin dans le document de Sacha Goldman, et ce texte reprend le titre d'une chanson pop de 1968, Mr. Bojangles, lequel titre va revenir lui aussi jusque dans l'exposition et les vidéos de l'exposition dont a parlé Thierry Grier au Centre Pompidou en 1991. Le deuxième extrait d'Einstein on the Beach est l'une de ces pièces que Wilson appelle des knee plays, donc qui se passe devant le rideau baissé, entre les scènes qui seraient comme des natures mortes, faisant de ces knee plays des portraits. On y voit Lucinda Childs et Cheryl Sutton. Ici, c'est la deuxième des cinq knee plays où vous comptez, toutes les deux, pendant un solo du violon, basculer sur vos chaises au fur et à mesure de l'accelerando du violon, et faites un signe d'adieu en déséquilibre. Ce qu'on entend à la fin de cet extrait, c'est Berne, Suisse, 1905, c'est-à-dire l'année où Einstein découvre la théorie de la relativité. Malheureusement, dans cette représentation qui a été filmée en Belgique à nouveau, mais cette fois-ci à Bruxelles, au Théâtre Royal de la Monnaie, la photographie d'Einstein qui était projetée sur le carré derrière les deux chaises sur lesquelles vous êtes n'a pas pu être projetée, donc cette photographie n'est pas visible. Je vous demanderai simplement un effort d'imagination. La troisième scène que nous montrerons est la scène qui suit tout de suite cette knee play, c'est-à-dire la première scène du champ ou du vaisseau spatial conçu comme un paysage. C'est une scène dansée. Nous la montrerons dans la chorégraphie originale d'Andy de Groot, qui a collaboré avec Wilson depuis quasiment les tout débuts jusqu'à Einstein, et à nouveau pour la chorégraphie qu'il a signée de la Flûte enchantée. Donc c'est une chorégraphie où abondent les marches, les courses, les traversées, et surtout cette figure majeure des premiers spectacles wilsoniens, qui est le tournoiement sur soi, le spinning, qui est une figure récurrente depuis les tout débuts, et Candy de Groot qualifié de forme de danse, je cite, continue sans point d'arrêt, une danse tantôt lente, tantôt plus rapide, qui permettait au danseur d'éprouver son énergie et de faire, d'une certaine manière, tourner l'univers avec lui. Le spectacle Einstein on the Beach, un petit peu comme la scène de meurtre du Regard du Sourd s'est étoilée, représente l'œuvre phare de Wilson, qui a été reprise en 84-85, puis en 92 dans une tournée internationale, et dont il était prévu qu'il soit repris une autre fois pour la réouverture du New York City Opera l'an dernier, chose qui ne s'est pas faite. En 84-85, lors de la reprise à New York, la chorégraphie est signée Lucinda Childs. En 92, lors de la tournée internationale, et c'est d'ailleurs en 92 que le spectacle a été présenté à la MC 93 de Bobigny, en 92, c'est la même chorégraphie de Lucinda Childs que l'on retrouve. Donc, le quatrième extrait d'Einstein que l'on verra sera la version de 1992 de la même scène dansée qu'on aura vue dans la version originale de 76, avec une fluidité, une ampleur ou une amplitude des mouvements beaucoup plus grande, une alternance de solo et d'ensemble, une pureté des lignes, un formalisme géométrique peut-être, un étirement du tournoiement sur soi en cercle, des passages latéraux et une recherche de graphisme scénique qui s'opposerait presque à la liberté que l'on pourrait dire plus sauvage de la chorégraphie originelle. Ensuite, dans la mesure où Maria Sheftsova va parler de Peer Gynt, dans la mesure où Henrik Raphaelsen devait être ici, qui a joué l'un des Peer Gynt dans la production de Wilson, nous avons sélectionné trois scènes de Peer Gynt. Même en l'absence d'Henrik Raphaelsen, il nous a quand même paru intéressant de montrer ces extraits, a fortiori parce que le spectacle n'a pas été présenté à Paris. La première scène que nous vous montrerons, c'est un spectacle qui date de 2005, la première scène que nous vous montrerons est la scène du Grand Courbe, où Peer Gynt entend une voix dans l'obscurité, l'enjoindre de faire le tour, de faire le détour, et amorce la problématique centrale de la pièce, comment, qu'est-ce que être soi-même ? Comme si on pouvait arriver à être soi en suivant une ligne droite, comme si la vie entière était un détour. Donc vous verrez ici Peer Gynt dans un cercle bleuté, avec ses mains très vivement éclairées. Vous entendrez la voix acousmatique du Grand Courbe et assisterez à cette course éperdue presque contre la montre, un petit peu comme si Peer Gynt était le jumeau à cet endroit-là de Wojciech. À la fin, résonnent des cris d'oiseaux et le noir se fait pour dire l'effondrement de Peer Gynt. La deuxième scène de Peer Gynt que vous verrez est la scène où, dans le désert, immense et illimité, dit Ibsen, Peer Gynt s'interroge sur l'alternative à être soi-même, c'est-à-dire se suffire à soi-même. Une nouvelle confrontation a lieu avec le réel, un nouveau duel entre la volonté et le monde, un duel entre un monde hors d'usage et une volonté néanmoins impuissante. Le désert surgit, puis disparaît, vous le verrez, masqué par un rideau. Et dans ce désert flottent trois météorites. On retrouve la même lumière bleutée, la même poursuite sur l'acteur et une fumée au sol qui crée au reste, mais c'est uniquement à l'image qu'elle le crée, un halo. La dernière scène de Peer Gynt que nous vous montrerons, qui est un peu plus longue que les deux précédentes, est la scène du retour de Peer en Norvège, sur le bateau. Donc ce bateau va finir par faire naufrage, mais Peer Gynt ressasse tout à la fois ses regrets et des ambitions. Racheter la ferme au retour et faire de cette ferme un château de lumière. Peer Gynt regrette la cruauté des hommes, l'absence de foi à cet endroit-là et l'impossibilité d'être soi-même sur un bateau en péril. Vous entendrez le fracas des vagues, les sifflements, qui introduisent au fond, peut-être, le désordre du naufrage dans cet univers visuel dominé par la pureté des lignes, que ce soit les lignes diagonales des filins ou la ligne verticale de l'échelle. Enfin, le dernier extrait que nous vous montrerons aujourd'hui est le tout début du Songe de Strindberg, qui a été créé à Stockholm en 1999 et qui est passé à Paris en 2000. Cet extrait avait été également sélectionné parce que Henrik Raphaelsen joue l'officier. Et même en l'absence d'Henrik Raphaelsen, peut-être pour rafraîchir la mémoire de certains spectateurs ou pour aviver celle d'autres non-spectateurs, nous vous montrerons donc ce qui, dans le découpage wilsonien, correspondrait à la première et à la deuxième scène de la pièce, c'est-à-dire le moment où Agnès, la fille du dieu Indra, est arrivée sur Terre, où elle est venue voir dans quelle boue et dans quelle misère vivaient les hommes, et où elle rencontre le vitrier devant le château qui pousse. Il pénètre dans ce château, rencontre l'officier qui se balance sur sa chaise, qui frappe sur la table avec son épée, dit Strindberg, et Agnès tout de suite se donne pour mission de le délivrer du château afin qu'il puisse accomplir son devoir, qui est de rechercher la liberté et la lumière. La fin du dialogue, qui n'est pas surtitré, enfin la fin du dialogue dans la vidéo qui n'est pas surtitrée, est la suivante en français. Agnès, tu te sens donc brimée par la vie, l'officier, oui, elle n'a pas été juste avec moi. La musique est de Michael Galasso, qui avait déjà composé une partie de la musique d'une lettre pour la reine Victoria en 1974, et qui a aussi composé la musique des Fables de La Fontaine et de Quartet plus récemment. Tout cela pour indiquer le fil et la fidélité de Wilson à ses collaborateurs. Bon visionnement.